Comme nous l'avons chanté dans l'acclamation de l'Évangile, dans le verset d'acclamation de l'Évangile, la vérité nous purifie et nous demandons au Seigneur d'accueillir la vérité de son Évangile. Et aujourd'hui, l'Évangile qui nous est donné nous donne des recommandations très importantes de la part de Jésus, nous éclaire réellement. Nous voyons Jésus d'un côté très ouvert par rapport à ceux qui agissent en son nom, qui chassent le mal, le démon, qui font le bien. Il est très ouvert, très accueillant, très bienveillant. Et d'un autre côté, dans la deuxième partie de l'Évangile, nous voyons un Jésus très radical et intransigeant sur le mal, le péché, le scandale, allant jusqu'à nous demander de nous amputer si nécessaire. Évidemment, il ne faut pas le comprendre, sans doute, de façon physique, mais ça exprime quelque chose de très très fort dans ce que nous devons faire. La première chose, le premier élément, donc, Jésus est très ouvert sur tout ce qui concerne ceux qui agissent pour le bien, ceux qui chassent le mal et le démon. Celui qui n'est pas contre nous et pour nous, dit Jésus. Cela nous renvoie à la situation actuelle de l'Église dans le monde, des chrétiens dans le monde, qui depuis déjà un millénaire sont divisés. Même avant, les divisions avaient commencé, mais se sont amplifiées durant le dernier millénaire, pour différentes raisons, et qui fait qu'aujourd'hui, depuis maintenant plus d'un siècle, eh bien, l'Église catholique, mais aussi d'autres églises chrétiennes, on prenne conscience de la nécessité de nouveau de dialoguer, de marcher les uns vis-à-vis des autres, les uns vers les autres pour pouvoir se découvrir, se comprendre davantage, dialoguer, rechercher ensemble la vérité de l'Évangile. Et dans cette espérance, mais cette espérance qui est aussi certitude, que le Seigneur veut rétablir l'unité de l'Église universelle. Et donc la parole que nous venons d'entendre de la part de Jésus est importante, parce qu'elle nous dit « Personne ne peut faire un miracle ou chasser un démon et ensuite dire du mal de moi ». Et de fait, dans les communautés chrétiennes, même si elles nous semblent bizarres pour certaines d'entre elles, eh bien, il n'empêche qu'ils agissent au nom de Jésus et ils ne disent pas du mal de Jésus. Et ceci doit, de notre part, générer un véritable respect pour eux, et nous devons nous-mêmes contribuer au dialogue œcuménique. Alors nous savons que ce n'est pas un dialogue simple au début, dans les premiers, la première génération, eh bien le dialogue œcuménique avançait tellement rapidement qu'on s'est dit ça y est, on va y arriver. Puis après on a vu qu'on était acculé à des vraies difficultés théologiques et importantes d'ecclésiologie aussi. Mais il n'empêche qu'il nous faut vivre aujourd'hui dans une véritable attitude chrétienne, c'est-à-dire que nous reconnaissons ceux qui sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ceux qui professent Jésus comme leur sauveur, ceux qui chassent les démons au nom de Jésus, nous les reconnaissons comme véritablement nos frères. Et donc, c'est une attitude que nous devons vraiment intégrer dans notre cœur. Il est bon, par exemple, quand nous parlons des chrétiens dans le monde, de rappeler que nous sommes certes 1,3 milliard de catholiques dans le monde, mais de rappeler aussitôt qu'il y a plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde, avec les autres confessions. C'est très important parce que ce sont des gens qui appartiennent à Jésus. Même si la plénitude de la vérité n'a pas toujours été accueillie, parfois elle a été déformée, il n'empêche qu'ils appartiennent à Jésus, ce sont nos frères, et nous sommes ensemble chrétiens. Donc, c'est quelque chose d'important de vivre cela. Le Saint-Père, récemment, dans une rencontre œcuménique, justement, a demandé aux catholiques de se tourner davantage aujourd'hui vers les chrétiens évangéliques. Ce sont donc une partie de l'Église protestante, la partie pentecôtiste qui est née à la fin du XIXe siècle, qui s'est développée, qui a aussi permis dans l'Église catholique un mouvement de renouveau dans les années 60, de renouveau charismatique, c'est-à-dire que c'est une mouvance qui veut vraiment être dans l'écoute du Saint-Esprit de façon très forte. Et aujourd'hui, cette mouvance, la mouvance évangélique, est une mouvance qui se développe très vite. On a peu de chiffres, on a du mal à avoir des chiffres, parce qu'ils se développent, y compris dans les milieux les plus hostiles. Ce sont eux, par exemple, qui évangélisent le plus dans les milieux musulmans, dans les pays musulmans où les persécutions sont très violentes. L'Église catholique, qui est une Église très structurée, elle est souvent dans une attitude par nécessité, hein, une attitude de dialogue avec les personnes sur place, et donc a du mal à proclamer l'Évangile de façon explicite et à tout le monde. Tandis qu'eux, ils sont plus libres par rapport à cela, et sans doute c'est le Saint-Esprit qui a voulu que ce soit ainsi. Toujours est-il que c'est eux qui aujourd'hui proclament l'Évangile dans les milieux dans le pays communiste. Ça se développe très vite en Chine, ça se développe très vite en Corée du Nord aussi, et puis donc dans les pays où on est persécuté, en fait. Et donc le Saint-Père nous invite à nous tourner vers lui, à nous soucier d'eux. En général, les évangéliques ont une mauvaise image de l'Église catholique, hein, ils sont assez méfiants, hein, ils considèrent que l'Église catholique a vécu différentes déviances, mais on voit un mouvement, déjà depuis plus d'une dizaine d'années, de plus en plus de pasteurs évangéliques, qui parfois sont pasteurs de très grandes églises, qui soit deviennent catholiques, hein, il y en a eu récemment encore dont on a peu parlé, et qui est un signe d'humilité exceptionnelle, un homme du nord de l'Europe qui a fondé une communauté ecclésiale, mais qui s'est énormément répandue, de plusieurs dizaines de milliers, de centaines de milliers de fidèles, et qui est devenu catholique et a proposé ses services à l'Église catholique concernant une manière d'annoncer l'Évangile. Et bon, pour l'instant, c'est resté sans écho, hein, mais toujours est-il que son humilité est étonnante, puisqu'il était chef d'une grande, très grande communauté, et puis là, en devenant catholique, il accepte de ne pas être considéré ni comme prêtre, ni rien. Hein, et donc, voilà. Donc ça, c'est une illustration, mais il y en a d'autres. Beaucoup, soit deviennent catholiques, soit prônent un véritable œcuménisme, un véritable dialogue avec nous, avec les autres chrétiens, en particulier les catholiques, et pensent que l'Église catholique est finalement une bonne chose pour travailler l'unité. Hein. Voilà. Donc toujours est-il qu'il nous faut nous soucier. Je sais que sur La Roche, il y a un pasteur évangélique que je n'ai pas eu la joie de rencontrer encore, qui est aussi très ouvert au dialogue œcuménique. Voilà. Donc prions pour cela, portons cela, qu'il n'est pas contre nous, mais pour nous. Le deuxième aspect que Jésus dit, c'est son intransigeance sur le mal. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Nous ne pouvons que penser à ces scandales qui traversent l'Église, en particulier l'Église catholique, depuis quelque temps. Jésus est d'une grande sévérité, alors qu'il s'est présenté juste avant avec une grande ouverture d'esprit. Nous devons combattre ces contre-témoignages dans l'Église, nous devons les combattre sans répit. Il nous faut vivre la tolérance zéro, évidemment. Contre le mal, il n'y a pas de négociation possible. Jésus est sévère et notre pape François, l'est à son tour à sa suite. Nous pensons en premier lieu au scandale de la pédophilie, qui régulièrement sont dénoncés et dévoilés au sein même de notre Église. Comment ne pas être effondré, meurtri, en voyant tout cela? J'avoue que j'ai moi-même j'ai eu du mal à me dire il faut que j'en parle, parce que j'ai pas envie d'en parler, étant donné que c'est dramatique c'est particulièrement difficile de penser qu'il puisse exister ce genre de choses chez nous. Nous devons être sévères. Le Saint-Père nous invite à vivre dans ce domaine une thérapie en Église. Je vous invite à prendre connaissance de la lettre du Saint-Père au peuple de Dieu, hein, qu'il a communiquée à fin août. Vous la trouverez dans la newsletter de la paroisse, dans le bulletin paroissial, et puis elle sera mise bientôt à disposition au fond des églises, Il y a une version, une édition que le diocèse va faire, que nous allons mettre à disposition. En tout cas, lisez-la, c'est important. La suite du texte de l'Évangile nous montre combien le Seigneur ne veut pas qu'on en fasse de compromission avec le péché. « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, nous dit Jésus. Arrache-le. » Je ne sais pas si on est prêt à être aveugle ou borgne. Donc quand Dieu révèle le péché de son peuple, ce n'est pas pour nous humilier, même si nous pouvons avoir ce sentiment, mais c'est pour que nous nous convertissions radicalement. Nous devons nous convertir radicalement. Alors, sans en aucune manière supprimer les responsabilités humaines, nous devons dénoncer, nous devons agir parfois, sans nier non plus que certains peuvent utiliser ces situations, ces scandales contre l'Église pour détruire l'Église, c'est vrai. Nous devons tout de même vouloir la vérité, et vouloir purifier l'Église, que l'Église se purifie. Mais comme le rappelle le Saint-Père encore il y a quelques jours, nous ne pouvons nier que nous sommes dans un gigantesque combat spirituel où s'affrontent le bien, la vérité, au mal et au mensonge, et qui pénètre parfois dans l'Église elle-même. Alors, voilà, nous sommes confrontés à cela. C'est un combat spirituel qui nous dépasse. Et donc le pape, le Saint-Père, nous invite à prier particulièrement pendant le mois d'octobre, à prier davantage pendant le mois d'octobre, et à prier à travers le rosaire. Il nous invite à prier le rosaire chaque jour pour que la Vierge Marie aide l'Église en ce temps de crise, et à prier l'archange Saint-Michel afin qu'il la défende contre les attaques du démon, car nous ne pouvons ignorer que le démon agit... Voilà, fait tout ce qu'il peut, voilà. Sans nier la responsabilité des hommes, on est bien d'accord. Mais le démon est heureux, et il fait tout pour augmenter le scandale. Ça me rappelle, en réfléchissant à cette homélie, ça rappelle aussi ce qui s'est passé, par exemple, au Grand Concile de Trente. Hein, il y avait des scandales énormes au sein de l'Église, et le Concile a permis de lancer un véritable renouveau qui a purifié vraiment l'Église. Et de la même manière aujourd'hui, on ne s'y attendait pas, mais à la suite du Concile Vatican II, il est possible que le Seigneur lance une véritable purification de son Église, souhaite vraiment une purification de son Église en profondeur. Le pape François nous invite tous à nous mettre en route, hein, et ce n'est pas que le clergé, mais tout le monde, et à prier pour cela et à nous convertir. Il nous invite donc à conclure le rosaire avec une des plus anciennes invocations de la Sainte Mère de Dieu, Subtum Presidium, et avec la prière traditionnelle à Saint-Michel, écrite par Léon XIII. Alors je vais terminer par cela, mais juste avant, je veux simplement souligner que dans l'évangile de ce jour, il y a cette fameuse affirmation « Ceux qui agissent au nom de Jésus, ceux qui prient au nom de Jésus ». Et il nous faut prendre conscience de la puissance du nom de Jésus. Il nous faut oser invoquer le nom de Jésus dans toutes les situations. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, éloigne de ce mal. Et comme il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Personne ne peut rester indifférent au nom de Jésus et nous devons utiliser la puissance de cette prière du nom de Jésus. Nous ne l'utilisons sans doute pas suffisamment. Et je vais terminer donc par cette prière. Nous prions pour la purification de notre Église et pour notre propre conversion et purification. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve. Mais de tous les dangers, délivre-nous, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Et la prière à l'archange Saint-Michel. Saint-Michel, archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté des embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.